Chers amis, je vous propose que nous ouvrions nos Bibles dans le premier livre des rois. Premier livre des rois dans l'Ancien Testament, au chapitre 16. Premier livre des rois, chapitre 16. À partir du verset 25. Et jusqu'à la fin de ce chapitre 16, verset 34 donc. 1 Roi 16, 25. Omri, roi d'Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères, il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille des Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alors apparaît Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Nous sautons un peu plus loin, au chapitre 21 du même livre, pour en lire les versets 25 et 26. 1 Roi 21, versets 25-26. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et puis enfin, nous revenons en arrière au chapitre 19 pour en lire les 10 premiers versets, puisque le chapitre 19 constitue notre base de réflexion, notre aire d'envol pour traiter de ce sujet du découragement. Je lis au verset premier. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Et puis simplement, deux versets extraits du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 11, dans ce beau chapitre, consacré essentiellement, en grande partie, à la résurrection de Lazare. Au verset 21, alors que Jésus vient d'arriver, avec un retard conséquent à vue humaine, verset 21, il est dit que Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et plus loin, verset 40, c'est Jésus qui s'adresse à Marthe et qui lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Dans notre étude d'introduction hier soir, nous avons donc été mis en présence du craque qui craque. Le craque qui craque. Nous avons exprimé notre étonnement hier soir à la lecture du début de ce chapitre 19 du premier livre des Rois. Surprise. Surprise en découvrant cette contradiction, cette sorte de fausse note dans le paysage humain d'un homme de Dieu ayant une réputation de courage. Et nous avons vu comment les commentateurs, de manière lapidaire, ont essayé de brosser le portrait de ce prophète Élie, un mont Sinaï, un homme dans le cœur duquel grondait la tempête, le prophète de feu, homme de prière, d'action, d'une grande autorité, homme chargé des missions les plus difficiles, des missions impossibles, chevalier sans peur et sans reproche, à la fois hardie et conquérante, à l'obéissance inconditionnelle, l'homme à la résistance physique, nerveuse, impressionnante. Ce bûcheron, semble-t-il, d'après la tradition juive, qui descendait des montagnes de Galade, une de ces grandes régions forestières de, nous dirions, l'actuelle Jordanie. Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Portrait impressionnant d'un homme qui nous dépasse de la tête et des épaules. Et pourtant, nous l'avons dit hier soir, un chapitre sur six qui nous raconte certains extraits de son service pour Dieu, un chapitre sur six est consacré à ce que nous appelons, nous, plutôt, nous l'avons dit hier soir, le profond découragement du prophète, pour ne pas évoquer la dépression, parce que qui dit dépression immédiatement crée toutes sortes de petits chatouilles à quelque part, ça nous dérange, n'est-ce pas? Alors comme le découragement, c'est notre problème à tous, nous sommes saisis à quelque part, interpellés, les uns et les autres, qui que nous soyons, par ce chapitre 19. Élie était un homme de la même nature que nous. Constatation de ce rédacteur inspiré de l'épître donc de Jacques, un homme soumis aux mêmes passions que nous, aux mêmes misères que nous, un pauvre homme comme nous, un homme sujet aux mêmes infirmités que nous, tout à fait semblable à nous. Voilà comment traduisent certaines des nombreuses versions actuelles. Et à partir donc de cette constatation surprenante, nous avons déjà d'emblée, dans notre introduction, tiré deux conclusions. La première, pour dire « ne nous croyons jamais trop forts ». À moi, cela n'arrivera jamais. Ce n'est surtout pas pieux d'oser demander la mort en tant qu'homme ou femme de Dieu. Alors nous avons passé en revue un certain nombre de personnages clés des Écritures. Et nous nous sommes rendus compte que tous les personnages des Écritures, ceux que nous appelons les grands hommes, étaient tous sans aucune exception des hommes et des femmes de la même nature que nous. Et les plus grands d'entre eux, ceux qui ont été utilisés par Dieu de manière absolument remarquable tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, les plus grands d'entre eux sont parfois descendus très très bas dans la vallée du découragement et de la dépression. Et puis nous avons même vu que dans l'histoire de l'Église, et nous aurions pu alors poursuivre longtemps, des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération, et au-delà de leur génération, qui marquent encore aujourd'hui par leurs écrits et leurs témoignages datant d'un siècle, deux siècles et plus même, ces hommes sont parfois passés par de terribles vallées de découragement et de dépression. Nous avons cité longuement l'un d'entre eux, ce prince des prédicateurs, Spurgeon, qui a tellement souffert dans son âme. Que de moments de terrible dépression dans la vie de cet homme de Dieu. Et pourtant, quel impact que le ministère de cet homme de Dieu qui a été pour moi, à travers toutes mes lectures, une immense bénédiction, un immense encouragement dans mon propre service pour Dieu. Ne nous croyons jamais trop forts. Et puis nous avons terminé en disant ne nous croyons jamais trop faibles pour en sortir. Ne nous croyons jamais trop forts pour y entrer. Ne nous croyons jamais trop faibles pour en sortir parce que Dieu, dans sa grâce, a sorti ces hommes de leur état. Et nous avons vu, dans une situation hier, qu'il l'a fait parfois de manière tellement extraordinaire. Je pense à cet homme de Dieu que nous avons évoqué, qui est monté dans un fiacre pour aller se jeter dans la Tamise à Londres. Et puis le fiacre s'est égaré. Cet homme de Dieu était très contrarié que le fiacre s'égare. Il est donc sorti de son fiacre. et il a décidé de rejoindre la Tamise à pied dans le brouillard épais de Londres. Et finalement, il s'est retrouvé sur le pas de sa porte, parce que le fiacre s'était perdu. Et Dieu a pris cet homme qui était sur le point de se suicider et l'a ramené à la porte de sa maison. Et il faut savoir que cet homme de Dieu a été utilisé par Dieu pour nous donner certains des chants les plus remarquables en bénédiction extraordinaire, et que suite à cette expérience, Dieu lui a donné un message d'encouragement et de consolation. Parce qu'il a vu la main de Dieu à l'œuvre, cette main de sa grâce, pour le rattraper dans cette situation si difficile. Ne nous croyons jamais trop faibles pour en sortir. Bien sûr, ceci est un très bref résumé. Tout n'est pas dit. Et nous avons simplement annoncé, en conclusion, hier soir, que dans ce long chapitre 19, nous avons la possibilité de rechercher, d'identifier, d'examiner les causes possibles, probables, plusieurs certaines même, de cette dépression, ce profond découragement du prophète Élie, et de chercher aussi quel remède approprié le merveilleux médecin des cœurs a su donner à son serviteur. Nous aurions pu, si nous avions passé beaucoup de temps ensemble, développer 7 causes. Cette étude existe en 12 cassettes de plus d'une heure chacune. Vous voyez que nous sommes loin du compte. Ça doit nous encourager à creuser le sujet. Nous ne ferons qu'aborder quelques aspects d'ici dimanche, en commençant par la cause numéro 1. C'est banal au départ, mais ne nous emballons pas. La cause apparemment banale, que j'appellerai dans un premier temps les circonstances difficiles. Les circonstances difficiles. Peut-être en affinant par 2 précisions, je veux parler de la durée et de l'accumulation des difficultés. Les circonstances difficiles, mais rendues plus difficiles encore par leur durée et l'accumulation des difficultés. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons lu non seulement les 10 premiers versets du chapitre 19, mais que nous sommes allés nous promener dans la fin du chapitre 16 et au chapitre 21. Le prophète Élie, à la fin du chapitre 18, sort de 3 années et demie particulièrement difficiles. 3 années et demie difficiles, bien à cause du climat spirituel, moral, économique, social. Bref, à une époque où Israël, le royaume du Nord en particulier, les 10 tribus du Nord avec leur capitale, Samarie, est dans une situation de corruption, de gangrène à tous les niveaux, extrêmement grave. Vous avez remarqué l'intensité du langage déjà avec le verdict sur le règne d'Omri, le père d'Akab, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et qui agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Et avec le fils, ça ne s'arrange pas, puisqu'Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et là, nous aurions pu passer notre soirée à
établir une comparaison entre la situation spirituelle, morale, sociale, etc., à l'époque d'Akab, et la situation que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Et nous aurions été frappés par les similitudes, à tous les niveaux. Nous avons entendu de brefs flashs de la situation des croyants dans certains pays du monde, des évaluations quant à nos frères et sœurs qui vont payer de leur vie leur fidélité à Jésus-Christ d'ici la fin de cette année. L'église clandestine, pardon de le dire comme ça, bien entendu, l'église en tant que telle n'est pas présente dans l'Ancien Testament, mais le peuple de Dieu y est. Et ce peuple de Dieu, en particulier dans la personne de ses conducteurs, de ceux qui exercent un ministère prophétique, a terriblement souffert à cette époque, puisque nous avons notamment à deux reprises dans 1 Roi 18, cette mention au verset 3, il nous est dit qu'Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Voilà l'église clandestine de l'époque. Voilà la persécution de l'époque. Et nous aurions pu ainsi prendre toutes sortes d'autres domaines, mais où Élie est plus particulièrement visé et frappé de plein fouet, c'est dans ce que nous pourrions appeler sa solitude spirituelle. Oh, non pas qu'il soit seul. Nous ne pourrons pas évoquer le problème de la solitude et parfois de l'isolement du disciple de Jésus-Christ qui conduit au découragement. C'est un des grands thèmes d'un roi 19. Il y a là une mauvaise évaluation du prophète Élie, auquel nous ne voulons pas jeter la pierre, mais nous devons hélas dire « Élie, tu t'es trompé. Tu as pensé que tu étais seul. En réalité, tu n'étais pas seul. » Vous savez comment, avec beaucoup de tact, de courtoisie, le Seigneur a dû rectifier le tir en lui disant non, ton évaluation est fausse. Mais par sa personnalité, par le type de ministère que l'Éternel lui a confié dans cette période si difficile, Élie s'est retrouvé dans une solitude spirituelle toute particulière qui est parfois le lot de certains ministères, de certaines vocations. Et c'est parfois si difficile à vivre et à porter. Et puis, bien entendu, ce fut un temps de famine. Donc, tout cela mis ensemble, contexte de tension, de pression, comme nous disons aujourd'hui, de stress, qui n'en finit pas. Et Élie est un homme de Dieu. Et parce qu'Élie est un homme de Dieu, qu'il vit dans l'intimité de Dieu, qu'il se tient dans la présence de Dieu, nous l'avons vu au début du chapitre 17, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Un homme qui vit très près, dont le cœur veut battre au rythme du cœur de Dieu, qui veut s'inscrire dans la plénitude de la volonté de Dieu dans une période où tout va de travers. Et donc un homme de Dieu qui, à cause de son intimité avec Dieu, à cause de sa perception de la pensée de Dieu, à cause aussi de son immense sensibilité, de son discernement des temps dans lesquels il vit, souffre beaucoup plus que n'importe qui. Et il est bien sûr qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus dans l'Église de Jésus-Christ sont ceux, disons-le, qui ont soif de vivre le plus près possible de leur lieu. Parce parce que le fait de vouloir vivre dans l'intimité de Dieu développe chez le disciple de Christ une sensibilité particulière aux événements de son temps. Une acuité spirituelle, une capacité de discernement et d'évaluation, de juste évaluation des situations de notre temps. Plus je veux marcher avec le Seigneur, plus je me sentirai concerné par l'état de la société dans laquelle je vis et par la qualité, bonne ou mauvaise, du témoignage de l'Église de Jésus-Christ à laquelle je m'identifie. Élie était dans cette situation. Et ne soyons pas étonnés, si nous avons vraiment soif de marcher de tout notre cœur avec le Seigneur, que nous ressentions d'autant plus ces pressions liées à cette capacité que Dieu donne à ses enfants qui vivent près de lui de discerner les temps dans lesquels ils vivent. Alors où ça devient plus difficile encore, c'est par le fait qu'avant le chapitre 19, il y a bien entendu le chapitre 18. Et que le chapitre 18 représente un autre contraste. Nous avons évoqué un fort contraste qui nous a beaucoup interpellé hier soir, mais s'il y a un contraste entre deux chapitres, c'est bien entre le chapitre 18 et le chapitre 19. Au bout de ces 3 années et demie de lutte, où Dieu a mis son serviteur soigneusement à l'écart, où Élie a certainement été terriblement exercé dans sa foi. C'est le thème de mon deuxième livre, « Fidèle quoi qu'il en coûte », les leçons du torrent de Kérit, ce qu'il a fallu que Élie, le prophète, apprenne, lui, homme de prière, lorsque le signe même de la bénédiction de Dieu dans l'eau fraîche de ce torrent qui baisse peu à peu, sans que Dieu lui indique l'étape suivante. Et il a fallu que le torrent soit totalement à sec pour qu'enfin Dieu lui dise d'ailleurs une chose qui humainement était inacceptable. « Tu vas maintenant dans le pays de Jézabel. Et là, j'ai prévu une délivrance pour toi. » Alors d'un côté, Élie pouvait être très heureux de la délivrance que Dieu lui accordait, mais quand il a entendu que c'était le pays de Sidon, de Sarepta, là où précisément où se trouvait l'antre de cette femme qui a plongé Israël dans cet état, ça n'a pas été facile. Donc ces 3 années et demie ont été des années d'école extrêmement difficiles, et puis on arrive à ce chapitre 18, ce sommet, cet heureux dénouement. Apparemment, c'est la fin d'une période de grande tension. Élie va pouvoir respirer un peu. Il semble être au bout de ses peines. Il peut louer le Seigneur pour sa fidélité, pour son intervention. Il voit combien la parole de Dieu est vraie et juste. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé. Et puis au moment où il est en train de jouir et de se réjouir, arrive le facteur avec le télégramme. Et c'est ça ce qui est difficile. Une lettre, un très court message, et tout s'écroule. Tout est remis en question en un rien de temps. Nous appelons cela la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je le dis volontairement, goutte d'eau. Cela ne veut pas dire que je sous-évalue la menace de Jézabel. Parce que l'histoire de Jézabel nous prouve que si elle prenait une décision, elle était capable d'aller jusqu'au bout, quelle que soit la quantité de sang à répandre. Mais je dis goutte d'eau, Parce que en ce qui concerne Élie, lui, Élie, avait vécu quantité de situations bien difficiles. Après tout, il n'y avait absolument rien d'exceptionnel dans l'attitude de Jézabel à son égard. Et pourtant, il va le dire au chapitre 19, verset 4, « C'en est trop. » C'est assez ou c'en est trop. C'en est trop. Une limite semble dépassée dans la résistance d'Élie. C'en est trop. Je pense à un texte allant dans le même sens dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Nombres, chapitre 21. Il est question de ce périple douloureux d'Israël au désert. Au chapitre 20, Israël qui a tourné déjà pendant près de 40 années dans le désert et donc maintenant tout près du but, presque aux portes du pays promis. Édom lui barre le passage, refuse de lui donner simplement la possibilité de passer par la grande voie routière, la grande autoroute de l'époque, qui aurait fait gagner beaucoup de temps. Et donc, à cause d'Édom, Israël est obligé de faire un grand détour pour pénétrer en terre promise. Et au verset 4 du chapitre 21, eh bien, commence le détour. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. D'autres versions traduisent un peu différemment, mais ça va dans le même sens. Le cœur du peuple se découragea en route. Deux autres versions diront « Le peuple perdit courage en chemin et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ?» Voyez, voilà un peuple qui est tout près du but. Enfin va se réaliser la promesse. Et on croit qu'on va l'avoir, cette autorisation. On a pris des précautions. Et là intervient simplement un non qui oblige à un nouveau détour. Et malgré le fait qu'on a tourné pendant près de 40 ans, bien ce détour, qui ne représente finalement rien à côté de ces 40 années pratiquement, de pèlerinage douloureux. Eh bien, simplement ce détour crée un profond découragement au sein du peuple d'Israël. Eh bien, chez nous, il en est de même. Nous connaissons parfois des séries de difficultés sur la route de la vie. Ça se succède. Ça s'empile. On parle parfois, je ne sais pas si l'on a raison, mais c'est notre langage, de la loi des séries, dans nos vies aussi. On rentre la tête dans les épaules en disant « À quand la prochaine mauvaise surprise ?» Et puis il arrive un moment où le ciel s'éclaircit. On croit voir le bout du tunnel, et juste au moment où on sort la tête de l'eau pour respirer un bon coup tout heureux, il y a une main qui nous écrase la tête pour repasser en dessous, n'est-ce pas ? Subitement, nous nous remettons à suffoquer. Un nouvel obstacle imprévu surgit qui remet tout en question. C'est ce que Dieu a permis dans l'expérience de Job. C'est ainsi que le diable a procédé. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Toute une série de drames qui le touchent de plus en plus près. Et il tient le coup. Même quand son épouse, nous l'avons dit, l'incite à maudire Dieu et à en finir avec ses jours. Et nous avons finalement vu que c'est le silence, mais un silence très parlant. Le silence réprobateur de ses meilleurs amis, qui a finalement cassé quelque chose en lui. Et qui l'a conduit finalement donc à prendre la parole pour maudire le jour de sa naissance. Il avait tout supporté. Et là, simplement le silence de ses amis. Parce qu'il était porteur d'un message tellement décourageant. A suffi pour qu'il bascule dans le découragement. Il y a quelques années, nous nous étions penchés sur le problème de la souffrance, dans une des toutes premières séries vécues ici. Et j'avais alors raconté l'histoire de ce croyant qui voyageait en train à destination d'une ville assez lointaine à l'époque où les trains n'étaient pas encore équipés d'électricité. Et ce croyant était donc dans un des wagons et la voie ferrée passait par plusieurs tunnels. Il était en train d'avoir une longue conversation avec son voisin immédiat, dans lequel il reconnaissait un néophyte en matière de voyage. Et voilà que subitement le train entre dans un tunnel. Et il sent, en quelque sorte, cet interlocuteur néophyte qui se tend, il imagine la panique qui doit s'emparer de ce voyageur qui n'est jamais entré dans un train alors que subitement le wagon se trouve plongé dans la nuit la plus noire. Alors, évitant bien entendu de le toucher à ce moment-là, vous imaginez l'infarctus que ça aurait produit, il lui dit simplement ceci: écoutez, mon ami, réjouissez-vous. Nous ne sommes pas dans un sac. Il y a un trou de l'autre côté. Il a essayé d'utiliser la meilleure formule. Nous ne sommes pas dans un sac. Il y a un trou de l'autre côté. C'est vrai. Et dans le fond, c'est ce qu'a expérimenté le prophète Élie. Un roi 18, c'est... Il y a un trou de l'autre côté. Il y a la lumière après les ténèbres. Mais Élie, homme de la même nature que nous, a oublié ce que nous oublions. Et qui d'ailleurs constitue la deuxième cause de découragement, mais que nous n'étudierons pas dans le détail. Cette cause qui a fait dire à quelqu'un, en matière de tunnel, le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, et le réaliste, il voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel, et le prochain tunnel. Ça, c'est le problème d'Élie, et c'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous devons nous méfier, non pas nous crisper, non pas nous laisser paralyser, non pas nous laisser ôter la joie que le Seigneur met dans notre cœur. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants au lendemain de certaines victoires. Parce que généralement, nous sommes tellement grisés par la victoire. Surtout quand elle arrive après des temps si difficiles, où ça a duré, où ça s'est accumulé, où on attendait cette lumière au bout du tunnel. Et maintenant qu'on est dans la plénitude de cette lumière, qu'on respire à fond, on oublie le prochain tunnel. On cesse de veiller. Et l'ennemi en profite. Tant il est vrai que dans la vie du disciple de Jésus-Christ, la vigilance commence à l'instant de la nouvelle naissance et ne finit que dans la présence immédiate du Seigneur. Il n'y a pas, disons-le clairement ce soir, il n'y a pas dans la vie de disciple de Jésus-Christ des pauses dans la vigilance. Ça n'existe pas. Et c'est bien pour cela et à cause de cela que je me suis empressé de dire tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'être crispé, de vivre une sorte de vigilance agressive, toute griffe dehors, pour lui rentrer dedans s'il a... Non, c'est pas ça. Nous sommes invités à une vigilance paisible, en comptant sur le Seigneur qui veut nous garder, mais il faut que cette vigilance soit là. Parce que l'ennemi profite du moindre relâchement, surtout quand nous sommes grisés par l'air de ces hauts sommets, de ces carmels que nous pouvons connaître dans notre vie. Oh, et c'est pourquoi, d'ailleurs, disons-le au passage, ces fins de semaine où nous sommes privilégiés de pouvoir ensemble et individuellement rencontrer le Seigneur sont souvent suivies d'heures parfois très difficiles dans la vie du disciple de Christ. On était si bien. Dressons trois tentes, hein? On aime dire ça quand on vit si bons moments ensemble. Où on goûte, oh combien le Seigneur est bon. On goûte les joies du ciel, même si c'est difficile, même si Dieu laboure, on sait que c'est lui qui travaille. Et puis ensuite on redescend la montagne. Et ça peut être si difficile après. Et on peut être parfois tellement surpris en se disant, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir toute une série de réunions? À quoi ça sert d'aller avec les frères et sœurs à l'église, puisque c'est plus difficile après? Mais peut-être avons-nous simplement oublié que il y a le tunnel, il y a la lumière au bout du tunnel, et puis il y a le prochain tunnel. Parce que nous sommes appelés à vivre non pas sur nos sensations, non pas sur nos émotions, non pas pour, sur tout ce que, oui, le Seigneur nous accorde, parce que Dieu n'est pas contre les sentiments, les émotions, l'affectivité, il nous en a fait un merveilleux cadeau, je le loue pour cela. Mais nous ne pouvons pas construire notre vie de disciple de Jésus-Christ là-dessus, c'est tout. Donc le lundi, eh bien, il faut dire, eh bien, je continue par la foi. Mes yeux sont fixés sur l'invisible. Nous ne regardons pas au visible, mais à l'invisible. C'est aussi pour cela que nous avons, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, en introduction à cette panoplie, littéralement, nécessaire pour le combat spirituel, nous avons ces mots en introduction, je lis dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste,
fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous remarquez, disons-le au passage, il n'est pas dit au reste, fortifiez-vous dans votre panoplie. Ça, c'est tout le problème actuel. Dieu ne nous a jamais demandé de mettre notre confiance dans nos armes. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de la panoplie de Dieu, c'est un mot en grec. Hein? Parce que nous avons tendance une fois de plus à considérer Dieu comme un épicier. Seigneur, j'ai besoin d'une paire de chaussures pour pouvoir avoir le zèle que donne l'Évangile. Ah, moi, Seigneur, j'ai besoin d'une épée. Non, c'est une panoplie. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de dissocier une arme des autres dans cette panoplie. C'est un tout. Et d'ailleurs, il est intéressant de savoir que ça commence par la ceinture. La ceinture qui tenait, en fait, tous les éléments ensemble. Et qui est d'ailleurs resté un élément très important dans l'équipement d'aujourd'hui, puisque vous savez que quand on fait un prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève sa ceinture. Parce que quand on lui enlève sa ceinture, il ne peut plus avancer. Parce qu'il perd sa culotte. Et il tombe. Et ce texte, d'ailleurs, dans ce contexte, au verset 14, il est dit, tenez dans la panoplie, mettez d'abord la ceinture, mais ensuite il faut accrocher tout le reste. Parce que si vous n'avez pas la ceinture, vous allez tomber. Mais ce que je voulais souligner ici, donc revêtez-vous de la panoplie de Dieu, afin de pouvoir te dire ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez la panoplie de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et c'est la suite qui me frappe, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. C'est un aspect que nous évacuons facilement. Notre problème, c'est précisément la fin de ce verset. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que ce soldat est déjà engagé dans une terrible bataille. Et elle est arrivée à un certain paroxysme, et ce soldat, il s'imagine peut-être qu'on ne peut pas aller plus loin dans la bataille. Alors il se frotte les mains. Mais si on a gagné, clac. Et c'est là qu'il va essuyer une terrible défaite, après avoir tout surmonté. Ça, c'était le problème d'Élie. Il n'attendait pas cette fameuse lettre de Jézabel. Nous avons dit, cause numéro 1, les circonstances difficiles. Je dois quand même ajouter quelque chose maintenant. Nous avons même précisé la durée et l'accumulation des difficultés. Nous avons essayé de le voir ensemble. Maintenant, il faut préciser. Et c'est là que la précision va me gêner, nous gêner, vous et moi, aux entournures. Nous nous appuyons sur les circonstances difficiles que nous vivons pour justifier nos découragements. C'est-à-dire que nous tenons, et nous sommes tous faits de la même pâte. Je ne suis pas celui qui vous dit ce soir, faites comme moi. Je me sens terriblement concerné par ce texte. Nous sommes tentés de dire, mais si les circonstances étaient autres, si les personnes n'étaient pas comme cela ou comme cela, si mes parents avait été plus juste.
Si je n'étais pas devenu si vite orphelin.
Et nous pourrions en ajouter des si.
Ce que je veux souligner avec ces si, c'est le fait que nous nous laissons obnubiler par les circonstances. C'est-à-dire que dans nos vies, dans ma vie, ce sont les circonstances qui sont les boucs émissaires de nos découragements. Nous justifions nos découragements en nous servant de ces boucs émissaires, de ces circonstances difficiles. Alors que la cause profonde est ailleurs. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à apprendre dans la vie avec le Seigneur. Continuellement, je suis tenté, quand je vis une situation difficile, de me focaliser sur la difficulté de cette situation pour dire, mais Seigneur, tu vois, comment pourrait-il en être autrement? Comment voudrait-il que je sois en forme, etc., avec ce que je vis en ce moment? Dans ce livre, hélas, depuis trop longtemps épuisé, et que j'ai lu 5, 6, 7 fois, peut-être je suis en train de le relire d'ailleurs encore une fois, qui s'intitule « Verdoyant malgré la sécheresse » et qui raconte les deux dernières années de service du dernier couple missionnaire qui a quitté la Chine au moment de l'avènement du communisme dans les années 49 et suivantes. Tous les missionnaires de la mission intérieure de la Chine ont pu quitter, sauf deux. D'abord deux couples, puis ensuite deux hommes. Et c'est l'histoire d'un de ces deux couples qui se sont retrouvés sur le plateau, les hauts plateaux chinois à proximité du Tibet, et qui ont vécu deux années terribles avec une petite fille, et qui en quelque sorte racontent ce qu'ils ont vécu et comment toute la mission a prié pour eux pendant ces deux années. Que de souffrance! C'est un livre d'un réalisme saisissant, une grande leçon de foi. Et dans ce livre, à un moment donné, il est question de l'épouse, Vilda, qui est là, seule, dans sa propre cuisine, occupée aux tâches domestiques, dans des conditions tellement difficiles, et qui se souvient subitement de deux traités. L'un écrit par le fondateur d'une des grandes missions internationales, la CMA, Simpson, et l'autre de Hudson Taylor, donc le fondateur de la mission intérieure de la Chine, ce qu'on appelait autrefois la mission intérieure de la Chine. Et alors, nous avons dans ce livre une partie du contenu de ces deux traités. Alors Simpson écrit ceci, « Si seulement cette lettre ne nous avait pas été envoyée. » Vilda prit le traité et lut, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En fait, il aurait pu être présent car il n'était pas loin. Il connaissait tout de leur épreuve. Et cependant, il laissa mourir Lazare. Pour les deux sœurs, c'était affreux. Je pense que dans toute vie, il y a ainsi. Une chose, une circonstance que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire autre. Il est tout puissant. Et cependant, il a permis que ceci soit posé. Je ne minimise pas ceci de votre vie, quel qu'il soit. Apportez-le au Seigneur et écoutez-le vous répondre ce qu'il a dit à Marthe. À son si, il répondit par un autre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu doit résulter de ce si dans notre vie. Ne pensez pas ce que votre si comporte. Faites-en une puissance pour Dieu. Savez-vous qu'un jour une lumière éclairera vos énigmes ? Alors acceptez, dites, tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été ôté, contribue à mon utilité pour Dieu. Affrontez ce si dans votre vie et dites du fond du cœur pour y répondre, j'ai Jésus. Il y a là un extrait du second traité, celui d'Hudson Taylor, dont il est dit que le secret de la paix intérieure de cet homme de Dieu au milieu des tempêtes de haine qui l'assaillaient était son refus de s'attarder aux causes secondes. Il croyait qu'il n'avait affaire qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Quand sa femme bien-aimée mourut, il écrivit « Si nous sommes satisfaits de sa volonté et de ses voies, notre paix est parfaite. » Et pour ceux qui connaissent suffisamment l'histoire d'Hudson Taylor, ils savent qu'en écrivant ces mots, « Si nous sommes satisfaits de sa volonté et de ses voies, notre paix est parfaite », ce n'était pas quelque chose de léger. Ce n'était pas écrit sans larmes. Parce que s'il est un homme de Dieu qui a révélé combien il était semblable à nous, c'est bien Hudson Taylor. Dans ses nombreuses lettres personnelles adressées soit au groupe de prière en Grande-Bretagne, soit à sa propre famille. Et c'est vrai qu'à la lecture de sa biographie la plus complète en français, on se rend compte qu'il avait appris à refuser de s'attarder à ce qu'il appelait les causes secondes. Alors je l'ai dit, la cause profonde du découragement ou de la dépression d'Élie est ailleurs. Volontairement, nous avons dit oui, les circonstances, parce que c'est ce qui saute aux yeux, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'une étude superficielle de ce texte nous amène à dire oui, ce sont c'est la situation difficile, comme nous l'avons dit, mais nous devons aller plus loin. Même si ça nous dérange, même si ça nous remet en question, même si Dieu la touche des mécanismes problématiques dans notre vie, en réalité, nous avons, dans ce scanner que constitue ce chapitre 19, dans cette radiographie très précise, nous avons, tout à fait au début du chapitre 19, au verset 3, nous avons la vraie réponse. Il nous est dit au verset 3, « Élie, voyant cela, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Je précise parce que ce n'est pas sans importance que certaines versions anciennes, d'après les variantes possibles du texte, ont une autre traduction, qui n'est pas du tout en contradiction, au contraire. Les deux affirmations sont complémentaires. Dans les unes, donc, Élie voyant cela, dans les autres, Élie eut peur. Élie, voyant cela, eut peur, dirons-nous, pour marier ces variantes. Élie, voyant cela, eut peur. Et c'est le petit mot, le verbe « voir » qui m'interpelle. Et je dois reconnaître dans ma vie que mes découragements sont d'abord un décrochage de mon regard. Un décrochage de mon regard.
Le problème d'Élie, c'est que Satan a réussi à détourner son regard intérieur en fait, qui a quitté Dieu pour se fixer tout d'abord sur les circonstances et enfin sur lui-même. Décrochage du regard. Et je me suis demandé dans quelle mesure le germe de cette chute d'Élie dans la dépression au chapitre 19 ne se trouve pas déjà dans la victoire du chapitre 18. Parce qu'il y a dans le chapitre 18 quelques symptômes qui peuvent annoncer à quelque part la vulnérabilité d'Élie au chapitre 19. Je veux parler par exemple chapitre 18 verset 22. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul. Il est quand même intéressant de constater que chaque fois que Dieu va lui demander de s'exprimer, c'est-à-dire deux fois dans le chapitre 19, Élie va commencer par cette formule: je suis resté seul. C'est-à-dire qu'il commence, et je reconnais que c'est mon problème, il commence par dire « je ». Je, moi. Et il semble que ce soit même un refrain qui s'installe dans sa vie, parce qu'au chapitre 19, chaque fois que Dieu lui dit « bon, écoute, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, Élie répète exactement les mêmes mots. Vous lirez dans les deux passages du chapitre 19 où Dieu interpelle Élie, Élie dit exactement la même chose. Comme si c'était devenu vraiment un refrain, quelque chose qu'il s'est répété, répété, répété encore, qui est incrusté dans son âme maintenant. Je. Et que l'on va retrouver au chapitre 18, à partir du verset 36, dans ce moment extrêmement crucial, où Dieu va se prononcer. Au moment de la présentation de l'offrande, verset 36 du chapitre 18, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans cette prière. C'est qu'il y a deux parties dans cette prière. Et qu'il me semble qu'il se produit un changement de centre de gravité. Élie commence par prier en étant centré sur lui. « Ô Éternel, justifie-moi !» Moi qui suis resté tout seul, justifie-moi, réponds-moi, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et puis ensuite, il bascule. Et peut-être qu'effectivement, nous avons même ici un résumé de sa prière, comme souvent dans les Écritures, où vous avez des éléments que Dieu a jugé bon de nous donner, mais la prière a pu être un peu plus longue. Mais il y a un moment où cela bascule, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, hein? Moi, non, c'est toi Éternel qui es Dieu, c'est toi qui ramènes leur cœur. Comme si dans ce chapitre 18, Élie est déjà en train de se battre avec ce que j'ai souvent appelé, pour reprendre un mot de la maréchale Booth, notre hippopotame, moi. Et c'est ça notre vrai problème. Quand j'analyse mes découragements,
je me rends compte de la place de mon égocentrisme, de ce règne du moi que l'on retrouve au chapitre 19 aussi, à diverses reprises, nous l'avons déjà dit. Verset 4, verset 10, verset 14. « Que fais-tu ici, Élie ? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. » Vous remarquez ce centrage d'Élie sur lui-même. Et nous ne faisons pas son procès, mais nous nous appuyons sur ce que l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Parce que nous avons dans l'Ancien Testament des radiographies de notre propre cœur. Je bénis Dieu de ce que le scanner existait déjà, l'IRM existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Avec des images parfaites, mais qui me mettent mal à l'aise. Et souvent, notre problème dans le découragement, c'est que nous n'en sortons pas tant que nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Je ne veux pas dire, nous ne pouvons pas le voir, qu'il n'y ait pas des facteurs de santé. Nous l'avons dit hier soir. Le problème de Spurgeon, c'est qu'il avait aussi une maladie qui le poussait dans cette direction. Il y a donc des facteurs de santé qui interviennent. Je le dis au passage parce qu'il ne s'agit pas que nous rentrions avec la force du bœuf et l'arrogance du lion dans n'importe quelle personne découragée en lui disant « Cesse de t'apitoyer sur toi-même et puis ça ira mieux, n'est-ce pas ?» C'est pas pour ça, mais c'est parce que nous avons besoin de, non pas de faire une introspection morbide, hein, de nous analyser du matin au soir pour chercher la petite bête, mais simplement, dans nos découragements, de dire « Écoute Seigneur, par ton esprit, donne-moi la lucidité pour que je vois s'il n'y a pas là un problème. » Et combien de fois en faisant cette prière, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, ton problème, Maurice, il est tout simple. C'est que tu es au centre de ton problème. C'est pas moi qui suis au centre, c'est toi qui es au centre. Et tu ne sortiras de ta situation qu'au moment où tu vas décrocher ton regard dans l'autre direction. Et vous savez combien nous nous laissons paralysés dans notre regard par nos situations difficiles. Hein? Combien c'est parfois difficile de faire ce décrochage dans l'autre sens. Hein? Surtout quand on a pris l'habitude d'être toujours en train de regarder nos circonstances, hein? De cultiver. Hein? On se nourrit de nos circonstances difficiles. Au point qu'on peut finalement se complaire dans un apitoiement sur soi-même. Vous savez combien certaines personnes refusent finalement de quitter une situation de deuil. Parce qu'il y a des côtés qui peuvent être, hélas, délectables dans l'apitoiement sur soi-même. Il y a des tempéraments qui aiment ça. Parce que ça permet à un tas de gens de fixer leur regard sur la personne. Elles deviennent le cœur de tout un mouvement qui agit en leur faveur. Alors il faut alimenter tout cela, n'est-ce pas ? Et la rupture est souvent difficile. Et il faut parfois du courage pour ceux qui sont autour de rompre ce cercle vicieux pour que le regard reparte dans une autre direction. Satan donc essaie toujours de nous amener à ce stade. Nous nous laissons impressionner par les choses visibles, par les circonstances. Nous nous lamentons sur notre sort. Et nous en venons très vite à oublier la puissance et la fidélité de Dieu dans le passé. Et ses promesses pour le présent et l'avenir. Je pense à John Wesley qui un jour faisait route avec un homme en difficulté spirituelle qui avait la liberté de partager avec lui ses doutes quant à la bonté de Dieu
Et il lui disait, mais je ne sais pas quoi faire avec toutes les perplexités, les inquiétudes qui m'assaillent. Et voilà qu'à ce moment, Wesley aperçoit une vache qui lève la tête par-dessus un mur de pierre. Et Wesley de se tourner vers son ami et de lui poser la question suivante. « Savez-vous pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur ?» Et l'ami de répondre avec une certaine perplexité compréhensible, non. Et Wesley de lui dire, « Eh bien, la vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut pas voir à travers. » Et il ajoutait, « Heureusement, c'est cela même que vous devez faire avec votre mur de difficulté. » Regardez par-dessus, sans vous y arrêter. La foi nous rend capables de dominer les circonstances et de regarder à Jésus, qui est au-dessus de tout, qui est béni éternellement. Et je reconnais que c'est quelque chose qui s'apprend. Que ça ne vient pas comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive dans notre vie. Parce que c'est fou ce que notre centre de gravité redevient vite. Notre moi. Et faites l'expérience, analysez un certain nombre d'histoires dans les Écritures d'hommes qui ont sombré dans un profond découragement. Nous en avons évoqué plusieurs. Et vous verrez que systématiquement, le problème de fond dans leur vie est là. Je n'en prendrai qu'un exemple et nous arrêterons sur cet exemple pour cette soirée. Dans l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, dans ce douloureux épisode qui va s'étaler sur plus de 10 ans certainement. Oh oui, facilement, une douzaine d'années même. 1 Samuel 27, où David est préparé à la royauté. Il est déjà, ouais, il a connu sa première onction, mais onction qui a fait de lui un roi en puissance. Roi selon le cœur de Dieu, mais qui doit apprendre à régner. Et qui donc, pendant une douzaine d'années, va apprendre à régner à une école particulièrement douloureuse. L'instrument par excellence de Dieu durant cette douzaine d'années s'appelant le roi Saül. Le roi Saül que Dieu va contrôler de manière extraordinaire et qui disparaîtra de l'histoire des hommes sur cette terre au moment où la formation de base à la royauté de David sera achevé et où il pourra être oint pour la deuxième des 3 fois d'onction. Et commencer donc son règne, tout d'abord limité au royaume de Juda. Et donc durant cette douzaine d'années, nous avons là de longs chapitres, n'est-ce pas, entre 1 Samuel 16 et le début du deuxième livre Samuel, nous avons de longs chapitres de la pédagogie de Dieu pour former les hommes et les femmes qu'il emploie. Ce qu'il oint, qu'il forme en vue d'un service, comment il le fait? Et le chapitre 27 est un des moments très difficiles qui commence par cette expression « David dit en lui-même ». David dit en lui-même. Et c'est là le problème. Plusieurs personnages dans les Écritures, à un moment donné de leur vie, ont dit en eux-mêmes. Et généralement, quand ils ont dit en eux-mêmes, si vous lisez la suite du texte, vous vous rendez compte que tout est allé travers. Quand ils ont commencé à penser pour eux-mêmes, à dire en eux-mêmes, ils ont inventé de ces trucs bizarres. Et en quelque sorte, Dieu a disparu à quelque part, dans toutes sortes d'aspects de leur vie. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'il va fuir la volonté de Dieu, il va fuir le plan de Dieu. Il va s'installer dans le camp des ennemis de Dieu. Il va se faire passer pour fou, etc. Enfin, bref.
Et pendant tout ce temps, pendant une longue durée, bien des mois, Dieu n'apparaît plus. Dieu n'apparaît plus dans sa vie, il se met à mentir. Finalement, il se retrouve donc même dans l'armée qui doit combattre le roi Saül, le roi oint de l'Éternel. Finalement, il va en être éjecté, parce que le monde a souvent quelque chose à nous apprendre dans ces situations. Dieu ne se sert pas seulement des chrétiens pour nous remettre dans le droit chemin. Et bien entendu, lorsque il sort de cette situation, malgré lui, c'est tout le chapitre 29, nous avons au début du chapitre 30, ces mots, lorsque David arriva le troisième jour à Tsikla avec ses gens, là donc où il habitait, normalement, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsikla, ils avaient détruit et brûlé Tsikla, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené, s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Israël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Alors c'est intéressant parce que, je le dis sans m'y arrêter, ce verset 4 du chapitre 30, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer, va chercher son origine au début du chapitre 27. Alors David dit en lui-même, quand il a commencé à organiser quelque chose dans sa vie en dehors de Dieu, à se centrer sur lui-même, il s'est préparé les larmes de ce qu'il a vécu ensuite à Tsikla. Voilà une illustration. Il y en a tant d'autres dans les Écritures. Alors bien entendu, volontairement, je ne lis pas les versets 6 et suivants du chapitre 30. Parce que, heureusement, David a fait ce que nous sommes, vous et moi, appelés à faire dans ces situations où nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Il a changé la direction de son regard et il a changé la qualité de son regard. Alors ça, c'est ce qui va nous intéresser demain soir. Changer la direction de notre regard et changer la qualité de notre regard. Mais nous nous arrêtons là.